Nous allons entendre deux passages dans les Écritures. Et pour pouvoir lire ces passages d'une façon différente, différemment éveillée, eh bien, nous allons demander à Dieu son secours dans la prière. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander que tu veuilles bien opérer un miracle pour nous. Le même miracle qui a été opéré pour les disciples et les apôtres au moment de la Pentecôte, à savoir que jusqu'alors ils ne comprenaient rien et tout à coup ils se mettent à comprendre de plus en plus. Parce que ton Saint-Esprit a été déversé, tu leur as donné la capacité d'aller plus loin, d'aller au-delà de leurs limites, d'aller au-delà de leurs frontières, d'aller au-delà de leurs capacités. Nous, Seigneur, souvent nous voudrions juste quelques petites sucreries pour rester tranquille sur place. Quelques petites consolations, des choses douces pour l'âme. Toi, tu les as envoyées au bout du monde, tu leur as donné une force qu'ils n'avaient pas par eux-mêmes, à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Alors nous te demandons, Père, que tu nous fasses comprendre quelles sont tes merveilles, comme tu l'as fait comprendre à toutes les nations rassemblées à Jérusalem le jour de la Pentecôte, et que tu nous le fasses comprendre afin que nous-mêmes nous puissions le dire dans toutes les langues, puissions en être témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que ton Saint-Esprit accomplisse ce miracle qui a fait que Pierre s'est mis à comprendre et qu'il a pu se repentir, ce miracle que Paul a pu changer de vie, ce miracle que Jean est devenu apôtre pour la Grèce et la Turquie, ce miracle qui a fait que Jacques a pu édifier les siens au cœur du peuple juif. Oui Seigneur, que ton Saint-Esprit nous donne cette capacité de comprendre pour transmettre ta parole. Amen. Le premier passage que nous lisons se trouve donc dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, et il s'agit des 11 premiers versets. Frères et sœurs, au sujet de la date et du moment où le Seigneur viendra, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous le savez très bien vous-même, le jour du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Oh, quelle paix !»« Oh, quelle sécurité !» Alors, tout à coup, ce sera la catastrophe. Elle tombera sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans la nuit. Et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. En effet, tous, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit, nous ne vivons pas dans l'obscurité. Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui boivent trop, boivent la nuit. Mais nous, nous appartenons au jour. Alors, soyons sobres. Prenons la foi et l'amour comme vêtements de combat. Mettons comme casque l'espérance d'être sauvés. Dieu ne nous a pas appelés pour nous juger, mais pour que nous obtenions le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous soyons vivants et unis à lui. Alors encouragez-vous les uns et les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Et puis, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, les 8 premiers versets. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu, il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire « Fais-moi justice contre mon adversaire. » Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit « Je ne respecte pas Dieu, je me moque des gens, mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Le Seigneur ajoute, écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le dis, il va leur faire justice très vite. Et quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Amen. Vous savez que cette parole, comme quoi le Seigneur, quand il reviendra, va revenir comme un voleur, c'est une parole qui est exprimée à plusieurs endroits dans les Écritures. Pourquoi décrire le retour du Seigneur comme le retour d'un voleur? C'est bizarre parce que le voleur est quand même une figure très négative. Je crois surtout ce qu'il faut retenir de cette comparaison, c'est que le voleur vient nous surprendre parce que le voleur vient prendre quelque chose avec une forme de violence. Et je crois que quand le Seigneur viendra nous reprendre, il ne va pas négocier 40 ans pour savoir si on est prêt, si on s'est bien coiffé, si... voilà. Il ne va pas négocier tout ça. Je crois que le Seigneur va effectivement désirer nous récupérer rapidement et avec efficacité. Il y a assez peu de temps, quand nous étions aux États-Unis avec une petite équipe d'ici, nous avions dû nous occuper d'une personne indienne, américaine native, disons, qui pratiquait la sorcellerie. Et qui pratiquait la sorcellerie dans l'église surtout. Et qui créait des tas de problèmes à beaucoup de gens dans l'église. Nous avions dit au pasteur de cette église, tu sais, cette personne, elle n'est pas chrétienne. Elle chante peut-être de temps en temps des cantiques, mais elle n'est pas chrétienne, nous le sentons tout à fait. Et puis, il y a un mois, j'ai reçu un email du pasteur qui nous disait « Elle est devenue chrétienne ». Alors, on se réjouissait à cette nouvelle, mais le mail ne s'arrêtait pas là. Il nous disait aussi, le lendemain de sa conversion, elle a eu mal au ventre et le jour d'après, elle était morte. Le Seigneur reprend de temps en temps des personnes comme un voleur. Cette femme était tellement en danger de par les pratiques qu'elle avait faites que le Seigneur ne pouvait pas se permettre de la laisser trop longtemps retomber dans tous les liens qui étaient les siens. À partir du moment où elle avait dit « Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, oui, j'accueille la vie éternelle », il la reprenait. Le Seigneur viendra comme un voleur. C'est paradoxal. C'est paradoxal parce que l'image est négative, objectivement négative. Et Luc nous rapporte ces paroles de Jésus. Quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il dans le monde des gens qui croient? Jésus dit ça à son époque alors qu'il était entouré de gens tout à fait fervents. Il était entouré d'une douzaine de personnes qu'il avait suivies, qui avaient tout abandonné pour le suivre. Et il pose cette question, est-ce que quand le Seigneur reviendra, il trouvera des gens vraiment croyants? Nous nous pensons croyants égale aller à l'église, dire qu'on est chrétien. Mais pour Jésus, c'est autre chose. Des gens croyants, ce sont des gens qui fondent toute leur vie sur le Seigneur. Des gens qui ne sont pas simplement occupés à 10h30 le dimanche. Des gens qui ne sont pas occupés seulement à 20h30 le soir ou à 22h avant de se coucher pour prier 2 minutes et demander à Dieu qu'il bénisse tous ceux qu'il connaît. Le Seigneur désire que nous soyons des croyants au sens où nous ayons une confiance qui soit totale, une confiance qui soit tellement totale qu'on puisse être repris à chaque instant. Qu'on puisse n'avoir aucune crainte de mourir ce soir. Est-ce que vous redoutez de mourir ce soir? Vous avez plein de choses à faire demain. Mais. Et après-demain, je ne vous en parle pas. Et puis samedi prochain, et puis il y a les vacances qui arrivent. Est-ce que vous êtes prêt à mourir ce soir? Si le Seigneur revient comme un voleur, il peut bien sûr revenir en puissance dans le monde pour le dernier jour, le jour du jugement, mais il peut aussi venir pour chacun d'entre nous, pour la dernière heure qui sera la nôtre, même si ce n'est pas la dernière heure de tout le monde. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Oula, non, non, j'ai peut-être deux, trois trucs à régler avant. Mais pourquoi c'est pas déjà fait alors, si vous savez très bien que vous avez deux, trois trucs à régler avant? Hier, vous aviez beaucoup de temps pour régler ces choses-là, et avant-hier, encore plus de temps. En plus, hier, il pleuvait. Vous aviez plein de temps pour aller demander pardon, pour aller réparer des offenses, pour aller faire toutes les choses qui font qu'on est globalement disposé à se dire, ben, si je meurs ce soir, ben, voilà, c'est pas grave. Je suis tranquille. Ce qui importe, c'est d'être uni au Christ. Et je suis en paix intérieurement. Je peux y aller, je peux partir. Bien sûr, bah, j'ai encore deux, trois trucs à faire pendant les vacances. Bien sûr, ça va me faire un petit peu de peine éventuellement d'être séparé de ma bien-aimée. Mais après tout, ultimement, rien ne doit me retenir de la communion avec mon Seigneur. Rien. Rien. Rien du tout. Le jour du Seigneur peut venir comme un voleur. Alors, si on sait cela, bien entendu, on change un tout petit peu les paramètres de son existence. Ça ne veut pas dire qu'on ne prévoit plus les choses. Luther disait que, quand bien même il apprendrait qu'assurément demain c'était la fin du monde, il planterait quand même aujourd'hui un arbre. Oui, bien sûr. On vit avec l'espérance d'une vie terrestre qui peut être longue, bien sûr, oui, c'est bien. Mais est-ce que pour autant, cette espérance d'une vie terrestre qui peut être longue doit nous absorber au point de ne pas être prêts pour le jour J? Or, nous le savons. Nous savons, il peut venir à chaque instant. Quand c'est dit dans les autres évocations de cette image du jour du Seigneur qui vient comme un voleur, dans les Écritures, dans les autres passages où on évoque cette image, le texte s'arrête là. Mais Paul rajoute quelque chose et il dit: vous, chrétiens, vous n'avez pas peur qu'il vienne comme un voleur. Parce que vous n'appartenez pas au monde de la ténèbre. On vole plus la nuit que le jour. Vous n'appartenez pas au monde de la ténèbre, vous appartenez au monde de la lumière parce que vous avez choisi Jésus-Christ. Paul s'adresse à des croyants, des vrais croyants. Vous appartenez à cette lumière, donc que vous importe que le Seigneur vienne comme un voleur. Vous le savez, mais ça ne suscite pas en vous l'angoisse parce que vous savez la paix que le Seigneur a mis en vous quand il a tout réparé, quand il vous a assuré que vous étiez avec lui pour toujours. Vous le savez. Vous avez fait votre part, vous avez essayé que votre existence soit un écho à ce cri d'amour du Seigneur: je t'aime et je ne permettrai pas que tu sois séparé de moi. Vous le savez, alors les moments où vous savez aussi que peut-être vous n'avez pas été tout à fait calé avec ce que le Seigneur attendait de vous, mais vous avez déjà réparé tout ça, bien sûr. C'est évident, puisque vous n'appartenez pas au monde de la ténèbre, vous appartenez au monde de la lumière. Oui, cela ne vous fait pas peur. Cela ne vous fait pas peur. Cela ne nous fait pas peur que le Seigneur vienne comme cela. Comprenez bien que dans la Bible, il y a souvent des histoires qui sont des histoires paradoxales, le Seigneur qui vient comme un voleur. Ou alors cette autre histoire du juge injuste. Beaucoup la lisent littéralement et n'en comprennent pas le sens, et ils se disent que le but de la foi, c'est, je reprends les termes grecs du texte, de casser la tête. Elle me casse la tête, dit le juge. Certains pensent qu'ils doivent casser la tête du Seigneur à coups de prière. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus dit bien: ce juge-là, il était injuste. Il était injuste. C'est pour ça que finalement, il a rendu une pseudo-justice à cette femme, parce qu'il en avait plein le dos, plein les oreilles. Il était exaspéré. C'est par exaspération qu'il a exaucé cette femme. Est-ce que vous croyez que c'est par exaspération que l'Éternel exauce la prière de ceux qui l'aiment ? L'Éternel n'est pas un Dieu injuste, il est un Dieu juste, un Dieu aimant. Et donc quand on lui demande fidèlement quelque chose, avec une vie à peu près calée, eh bien, il exauce. Il exauce très simplement. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux et tout ce qu'ils demanderont en mon nom, je leur accorderai. Très simplement, très paisiblement. Entendez bien que la parabole du juge unique n'est pas là pour nous dire qu'il faut saouler Dieu de nos paroles. Elle est là pour nous dire, si vous êtes en relation avec lui, vous êtes très simplement en train de remercier et de demander. C'est le fil très très simple de vos jours et c'est comme ça que votre vie fonctionne. C'est pour cela que vous n'avez pas à être dans la religiosité de la demande permanente. Vous n'avez pas à être dans la religiosité de la peur permanente de ne pas être uni au Christ. Vous êtes libéré de tout ça. Vous êtes libéré. La foi, c'est donc cette persévérance, non pas cette obstination, mais cette persévérance, cette forme de ténacité, cette constance qui fait que nous savons que nous pouvons sans cesse nous placer devant le bon juge, sans crainte de son jugement. Nous pouvons nous placer devant le bon juge parce que nous savons qu'il fait grâce. Il nous l'a dit par son porte-parole, Jésus le Christ. Nous savons que nous pouvons clamer justice, y compris même parfois quand la justice des hommes va contre nous. Nous pouvons clamer justice devant Dieu. Et il exauce. Il exauce. Alors n'ayons pas peur de ce retour du Seigneur. Le retour du Seigneur n'est pas différent de ce que nous vivons dans une vie qui est exposée au quotidien à ce même Seigneur. Si vous avez vécu toute votre vie dans la présence de Dieu, vous n'avez aucune crainte de son retour. Si effectivement, en revanche, notre vie consiste à n'être qu'une espèce de cache-cache, dans des moments où nous pensons que nous pouvons nous dérober au regard de l'Éternel, et puis de temps en temps on revient, on fait son petit mea culpa, et puis on lui demande mille fois la même chose. Vous voyez toutes ces attitudes qui sont relativement infantiles. Le Seigneur ne nous demande pas d'être infantiles, il nous demande d'être des enfants. Le Seigneur ne nous demande pas d'être pulsionnel et de tout le temps, quand on en a envie ou quand on en a besoin, venir devant lui. Il nous demande d'être dans la fidélité. Il nous demande d'être dans l'équilibre et dans la constance. Voilà. Voilà des recettes toutes simples pour que le Seigneur, quand il reviendra, trouve effectivement sur la terre quelques croyants. Alors si bien entendu, ces paroles, et ça peut arriver, notamment cette parole du Seigneur qui viendra comme un voleur, et cette parole nous inquiète, eh bien c'est que l'opportunité nous est donnée très immédiatement, et il ne faut pas attendre d'être sorti de ce temple, de régler intérieurement ou par la parole ce qui doit l'être devant Dieu. La vie de foi, c'est cette fidélité paisible, cette constance qui est assise dans la certitude profonde d'un amour qui dépasse tout, qui terrasse tout. Si nous sommes effectivement plus préoccupés par notre petit quotidien plus que par notre union avec Dieu, si nous sommes plus préoccupés par nos petites fautes qui reviennent régulièrement, que nous tournons autour d'elles en les contemplant, si nous sommes plus préoccupés par nos erreurs et nos limites que par l'incroyable gloire de Dieu qui s'étend au cœur de notre vie, eh bien effectivement, nous loupons le rendez-vous. Parce que Dieu, lui, a vraiment envie de vivre autre chose avec nous. Dieu a vraiment envie de vivre autre chose avec nous. Nous, nous sommes comme des enfants, nous cassons tout dans la colère, et puis après ça, nous venons demander notre argent de poche. Nous râlons, et après ça, nous demandons un câlin à l'Éternel. Non.